Fabienne Lemoelle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marina.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée. À la une, la marche symbolique des Gilets jaunes en ce moment dans les rues de Paris. À défaut d'une forte mobilisation pour cet acte 6, 800 d'entre eux traversent la capitale. Nous serons dans le cortège. En région, les Gilets jaunes profitent des départs en vacances pour des opérations péage gratuits, comme sur la 43 près d'Albertville. Parmi les points de blocage, 300 manifestants rassemblés en ce moment au niveau du Boulou à la frontière espagnole. L'adoption hier soir des mesures d'urgence pour répondre à la colère des Gilets jaunes, possibilité d'une prime exceptionnelle pour les salariés, mais rien pour la fonction publique, d'où la colère du patron de Force Ouvrière sur Europe 1. Vous l'entendrez. La dernière ligne droite pour les achats des cadeaux de Noël et les jeux de société ont toujours la cote. Le journal des sports, dernière journée pour les footballeurs en Ligue 1. La météo, gris et calme, nous dira Valérie Darmon pour ce début de vacances.
Europe 1.
À défaut d'une forte mobilisation, les Gilets jaunes ont donc misé sur des actions symboliques. On les attendait à Versailles. Le château avait même été fermé pour éviter tout incident. Et finalement, ils ont été plusieurs centaines à se donner rendez-vous à Montmartre, au pied du Sacré-Cœur à Paris. Fabien Radriana-Rizoa, vous les avez suivis toute la matinée et au fil des heures, leur manifestation s'est transformée par une marche dans les rues de Paris. Ils sont près de 800 Gilets jaunes actuellement.
Oui, et grâce à l'effet de surprise, le cortège a pu avancer jusqu'à la gare Saint-Lazare sans croiser de voiture de police. Présente depuis l'acte 1, Camille ne compte surtout pas baisser les bras à la veille de Noël.
Mais attendez, nous on n'a pas de thunes pour acheter les cadeaux de Noël, pour partir en vacances, pour prendre le train, Nous tout ça, mais les gens ils se rendent pas compte quoi. Et la société, c'est pas que des gens bobos qui ont de l'argent pour partir en vacances, acheter des cadeaux à leurs enfants et ignorer totalement ce qu'on fait parce que soi-disant on est des délinquants.
Le cortège cette fois est très mobile et pacifique pour le moment, mais la participation faiblit depuis une semaine. Il fallait s'y attendre pour Patrick, présent depuis 9h30.
Il ne faut pas oublier que si la police et les forces de l'ordre sont fatiguées, les gilets jaunes aussi sont fatigués, parce que ceux qui tiennent les ronds-points toute la semaine, c'est vraiment plus dur. Donc tout le monde a besoin un peu de la traite des confiseurs, on va dire.
Depuis une bonne demi-heure, le cortège est encadré par les forces de l'ordre maintenant et prend la direction du musée du Louvre.
Voilà pour la situation dans la capitale. En région, les Gilets jaunes ont donc décidé de profiter des départs en vacances pour se mobiliser, en particulier en région Rhône-Alpes. Rémi-Pierre, vous vous trouvez sur la route des stations de ski sur la 43 au niveau de la barrière de péage de Sainte-Hélène près d'Albertville. Et depuis ce matin, cette opération péage gratuit.
Oui, bien, ils sont une centaine de gilets jaunes en ce moment à tenir ce péage et à maintenir les barrières levées sans pour l'instant provoquer de bouchons. C'est l'occasion d'échanger aussi quelques mots avec les vacanciers, souvent solidaires.
Vous avez un ticket ?
Oui.
Allez, c'est gratuit pour vous aujourd'hui. Bonne journée, messieurs, dames.
Vous comprenez, vous soutenez le mouvement, monsieur ?
Bien sûr, moi je le fais dans ma région parce que je suis de la région Picarde.
Et comme depuis le 17 novembre, Mimi est sur le terrain avec un gilet jaune qu'elle ne quitte plus. Pas question pour elle d'entendre parler d'essoufflement du mouvement.
Pas du tout, au contraire, on est de plus en plus motivés parce qu'on voit que rien ne se passe. En faisant preuve de bonne volonté, en donnant nos revendications, rien ne bouge. Bon, ils ne vont pas nous avoir avec leurs bobards, on tiendra le coup et on restera unis.
Juste à côté d'elle, il y a Lucas qui récupère les tickets de péage. Étudiant à Dijon, il est revenu manifester près de sa famille à Albertville et il est bien décidé à s'inscrire dans la durée.
Et aujourd'hui, on va dire qu'il reste les plus actifs. C'est l'approche des fêtes de Noël aussi, donc forcément, il y en a qui sont moins motivés, des préparations à faire. Mais clairement, je pense que s'il n'y a pas de nouveau de la part du gouvernement, il faudra s'attendre à ce que le mouvement reparte aussi en janvier, ça c'est obligatoire.
Alors si tout se passe bien ici, ce n'est pas vraiment le cas à Grenoble. Des affrontements ont lieu en ce moment entre 200 gilets jaunes qui veulent occuper le péage de Vorep et les gendarmes mobiles.
Et parmi les autres opérations menées dans la matinée sur la 7, des gilets jaunes ont enflammé des palettes au niveau de la sortie d'Orange Sud. Mais depuis, la circulation a été rétablie. Autre point de mobilisation, le tunnel du Mont-Blanc, où les gilets jaunes arrêtent les poids lourds. Autre point de blocage encore, cette fois au niveau de la frontière franco-espagnole. 300 gilets jaunes bloquent une bretelle d'autoroute au niveau du Boulou. Et puis notez la mort d'un automobiliste cette nuit. Il a percuté un camion bloqué à un barrage filtrant de gilets jaunes à l'entrée de l'autoroute de Perpignan Sud. Ce décès porte à 10 le nombre de morts liés aux gilets jaunes depuis le début du mouvement. C'est hier soir que le Parlement a définitivement adopté les mesures d'urgence en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Vote final du Sénat après seulement 4 heures de débat contre 13 la veille à l'Assemblée. Vote à main levée pour adopter la défiscalisation des heures supplémentaires, l'exonération plus large de la CSG pour les retraités et une prime exceptionnelle que pourront verser les entreprises si elles le veulent à leurs salariés. En revanche, pas de prime pour la fonction publique. Une décision assumée ce matin sur Europe 1 par Olivier Dussopt, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique.
Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas ce choix, malgré la demande des syndicats ? Parce que c'est extrêmement coûteux, collectivement, pour un avantage individuel assez faible. Si nous augmentons la valeur du point d'indice de 1%, cela coûte en dépenses publiques 2 milliards d'euros. Mais pour un agent public qui gagne 2000 euros net, c'est une augmentation de 14 euros par mois. Et pour un agent qui gagne le SMIC, c'est autour de 8 euros par mois. Coût collectif énorme, avantage individuel peu important.
Voilà pour les explications du secrétaire d'État à la fonction publique. Des explications qui ne satisfont pas du tout le patron de Force ouvrière, Yves Verrier.
On a systématiquement l'impression que chaque fonctionnaire se promène avec une pancarte « Je suis une dépense ». Évidemment, c'est coûteux pour les finances publiques parce qu'il y a 5 millions de fonctionnaires. Mais on a besoin de ces fonctionnaires. Mmh. Qu'est-ce qui s'est exprimé autour du mouvement des Gilets jaunes ? C'est aussi la disparition des services publics de proximité. Et le service public de proximité, ça demande des agents, des moyens. Et évidemment, ça a un coût. Mais ce n'est pas un coût pour la société. Je dis, il faut arrêter avec ce terme de dépense publique. Parlons d'investissement pour garantir l'égalité de traitement des citoyens sur le territoire. Il serait mieux qu'on soit entendu, c'est très clair, parce qu'arrivera un moment où la cocotte minute va exploser. Et les syndicats de la fonction publique, ils ont fait un communiqué commun, ils ont annoncé très clairement qu'ils n'allaient pas en rester là, c'est sûr.
Le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier, qui est un invité de la matinale de Bernard Poirette. À suivre les départs en vacances de Noël avec beaucoup de monde attendu dans les gares, comme ce matin, gare Montparnasse à Paris.
Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Midi 38, c'est la suite du journal avec Fabienne Lemoyle.
Et beaucoup de monde attendu dans les gares aujourd'hui pour les premiers départs en vacances de Noël. Et ce matin, gare Montparnasse à Paris, Marguerite Lefebvre, il y avait beaucoup de familles forcément sur les quais.
Essentiellement des familles, oui, qui pour certaines sont arrivées aux aurores ce matin, gare Montparnasse. Un défilé de visages un peu fatigués, il faut le dire, mais heureux de partir évidemment pour fêter Noël, comme Fabrice qui porte sa fille Juliette de 4 ans sur les épaules.
Là, on est dans le Père Noël. Donc du coup, vous voyez, les grosses valises, dedans, il n'y a évidemment que des vêtements. On part avec les deux enfants dans le sud de la France, on va essayer de rejoindre les Pyrénées. Là, on est content, on va se retrouver en famille, ça va nous faire du bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble, donc on est très content. Avec les derniers événements, on va être content de partager un peu des moments joyeux.
Se retrouver en famille pendant les fêtes, c'est aussi ce que s'apprête à faire Solène. Elle est partie du Cambodge, hier où elle habite depuis 20 ans. Pour elle, direction Quimper désormais, avec sa valise pleine à craquer.
29 kilos de cadeaux. C'est ça d'avoir de la famille à Noël. Ça faisait 15 ans. Et c'est bien Noël en France quand même. C'est froid, c'est voilà. Surtout la gare Montparnasse, en plein travaux. Toujours un vrai bonheur. Mais on est sur une autre... quand c'est des vacances, on est sur une autre planète un peu quand même.
Voilà, des vacanciers heureux, souriants, partis fêter Noël loin de Paris. Des vacanciers qui ne doivent pas vraiment se sentir seuls puisque pendant ces fêtes de fin d'année, 8 millions de voyageurs se croiseront dans les gares.
Effectivement, merci beaucoup Marguerite Lefebvre. C'est donc la dernière ligne droite aussi pour les achats des cadeaux de Noël. Alors, qu'allez-vous trouver au pied du sapin cette année ? Finalement, il y a encore beaucoup de classiques Maud Descamps.
Il y a d'abord les indémodables que l'on retrouve inlassablement au pied du sapin et qui chaque année figurent dans le top 5 des jouets les plus vendus, comme le détaille Adrien Vincent de Révélancy.
C'est les jeux de société, les Monopoly, les Puissance 4, les Docteurs Maboule, les pâtes à modeler, et bien entendu, tout ça, c'est des classiques parmi les classiques, quelles que soient les tranches de population, quelles que soient les régions.
Autre classique, les Playmobil, ces petites figurines créées en 1974, cartonnent toujours autant chez les grands-parents. Pour Franck Maté de Jouet Club, c'est une des meilleures ventes de cette année.
Playmobil qui reste une valeur sûre à Noël, avec des grands classiques comme par exemple le commissariat de police ou bien une valise pour jouer à la garderie. Ça, c'est vraiment des grandes valeurs sûres.
Et aux côtés de ces grands classiques, quelques nouveautés, notamment les jouets mystères dans lesquels se cachent des mini-poupées ou des animaux miniatures en tête des ventes depuis un mois. Et enfin, chez les adultes, c'est le Burger Quiz qui décroche la première place sous le sapin cette année.
Maud Descamps, un mot de l'étranger avec les États-Unis qui sont entrés en période de shutdown faute d'avoir trouvé un accord entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget et le financement du mur à la frontière mexicaine. Mur voulu par Donald Trump depuis cette nuit, les administrations ne peuvent plus être financées. Plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires pourraient se retrouver en congé sans solde à quelques jours de Noël.
Le journal des sports.
Avec Cyril de la Morinerie. Bonjour Cyril.
Bonjour Fabienne.
Football, et c'est bientôt la trêve ce soir. C'est la dernière fois que les footballeurs vont jouer. En 2018, 19e journée de Ligue 1 au programme.
Avec 9 matchs ce soir que vous pourrez suivre intégralement à 21h dans le multiplex animé par Lionel Rousseau sur Europe 1. Un multiplex avec 9 matchs, c'est génial en radio et on vous invite tous à nous retrouver dès 20h donc et 21h le coup d'envoi de ces rencontres. Focus d'abord sur l'Olympique de Marseille en pleine crise et qui se déplace chez un mal classé Angers 14e seulement. Marseille éliminé de la Ligue Europa et de la Coupe de la Ligue, battu 6 fois cette saison en Ligue 1. Les supporters sont en colère et l'entraîneur qui a prolongé son contrat est contesté. Mais Rudy Garcia, lui, reste combatif.
Moi, je fais mon travail du mieux, de mon mieux, comme la saison dernière et comme partout où je suis passé. Quand c'est facile d'être coach, notamment l'Olympique de Marseille. Enfin, si j'avais choisi la facilité, je serais pas venu ici. Donc voilà, je sais où je suis. C'est un des grands clubs français. On a envie de le ramener en Ligue des Champions. Ça sera notre objectif de fin de saison. Donc c'est pas parce qu'on a une période un peu difficile qu'on va baisser les bras ou ne plus être combatif.
Et c'est Rudy Garcia évidemment interrogé par Yann Théroux.
Tout en haut du classement, il y a bien sûr le PSG qui va affronter Nantes ce soir.
Avec le retour au Parc des Princes de son ancien entraîneur Vahid Halilhodžić, désormais à la tête de l'équipe nantaise, une très belle affiche, même s'il y aura ce soir un absent de marque. Le Brésilien Neymar, l'attaquant parisien qui officiellement souffre aux adducteurs, eh bien il est déjà rentré au Brésil depuis plusieurs jours. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel ne voulait pas prendre de risques.
Je dois dire honnêtement, Neymar, il veut jouer toujours. Mais dans ce moment, c'est un moment d'être intelligent et pas prendre aucun risque avec cette blessure. Si c'était une finale ou la dernière match de la saison, c'est possible de prendre de ce risque et jouer avec Ney. Mais dans ce moment, à mon avis, c'était nécessaire de rester calme.
Thomas Tuchel avec Julien Froment. Les autres matchs ce soir, Lille face à Toulouse, Montpellier-Lyon, Reims-Caen, Rennes-Nîmes, Saint-Étienne-Dijon, Strasbourg-Nice. Et puis les deux derniers face à face, Monaco, le Monaco de Thierry Henry et de Franck Passy contre Guingamp.
Le rugby avec la 12e journée du top 14 et un match particulier pour le Stade français.
Oui, puisque 3 jours seulement après les obsèques de leur jeune coéquipier de 18 ans, Nicolas Chauvin, décédé à la suite d'une fracture d'une cervicale lors d'un plaquage. Les Parisiens reprennent le chemin des terrains. Il y a forcément de l'appréhension à l'idée de rechausser les crampons. Une cellule psychologique a d'ailleurs été mise en place. Cet après-midi, la compétition donc reprend à Agen et le Stade français, 8e du classement, doit réagir, insiste le 3e ligne, Sergio Paris.
C'est vrai qu'en championnat, on vient de 3 défaites, notamment la défaite à Toulouse et celle contre La Rochelle à domicile qui a mis un coup d'arrêt, en tout cas, un peu à notre, on va dire, à notre première partie de saison. On est conscient qu'on va rencontrer une équipe d'Agen qui sort d'une belle victoire en championnat à Castres, donc avec beaucoup de confiance. Donc voilà, c'est un match qui sera très très compliqué. Donc on est conscient, mais on s'est bien préparé voilà, pour ce défi.
Voilà, propos recueillis par Marie Guida. Agen, Stade français, coup d'envoi 14h30. Les autres matchs, Toulon-Lyon, c'est à 16h30. Enfin, Pau-La Rochelle, Racing-Perpignan et Grenoble-Montpellier qui se joueront à partir de 18h30.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Il nous reste à voir le temps de ce samedi. Et vous nous annoncez un temps gris mais calme pour ce début de vacances, Valérie Darmon.
Effectivement Fabienne, sur les 3/4 de la France, les éclaircies se font tout de même plus nombreuses si vous rejoignez les côtes bretonnes jusqu'en Vendée, pays de la Loire. Il fait toujours relativement beau aussi entre Roussillon et Alpes-Maritimes. Sinon, partout ailleurs, c'est gris et plus ou moins pluvieux. Très pluvieux en Aquitaine jusqu'en Midi-Pyrénées, pluie par intermittence entre Hauts-de-France et Lyonnais. Il neige aussi, et c'est important à cette époque de l'année, en Savoie, à partir de 2000 mètres. Température très douce, trop douce pour la saison, pour tout le monde, jusqu'à 9 degrés au-dessus des moyennes, avec des maximales entre 11 à Charleville et 19 à Perpignan, 13 annoncés à La Rochelle, à Bourges, Brive-la-Gaillarde et Paris, 14 à Niort, Avignon, Quimper et Bordeaux, 15 à Carcassonne et Mont-de-Marsan, 17 à Nice, Biarritz et Toulon. Et demain, le temps s'améliore au sud, sur nuages au nord, mais les températures sont totalement et pleinement stationnaires, donc toujours très printanières.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, c'est la dernière ligne droite, dernier week-end pour l'achat des cadeaux de Noël. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a changé notre mode de consommation? Qu'est-ce qu'il en dit? En tout cas, on en parle avec l'anthropologue Bernard Desjeux.
Fabienne Lemoine, votre témoin de la semaine.
Dernière ligne droite pour l'achat des cadeaux de Noël. Les commerçants espèrent que les clients seront au rendez-vous après plusieurs week-ends marqués par le mouvement des gilets jaunes. Alors, est-ce que ce mouvement a modifié nos habitudes au-delà du fait qu'on ait décalé nos achats? Et qu'est-ce que cela dit de notre mode de consommation alors que Noël représente un pic avec les cadeaux au pied du sapin? Pour en parler avec moi en studio, l'anthropologue Dominique Desjeux, professeur émérite à la Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je sais que ça fait plusieurs semaines que vous scrutez ce mouvement des gilets jaunes. Qu'est-ce que ce mouvement dit de notre société de consommation alors que les principales revendications ont porté, en tout cas au début, sur le pouvoir d'achat?
Ben, c'est donc bien un mouvement consumériste. Et ce que je trouve important de noter ici, c'est que ce n'est pas un mouvement proprement français. C'est un mouvement qui existe depuis en gros 1920, le début de la grande consommation aux États-Unis.
Oh là, vous remontez à très loin.
Absolument, 1950 en France, 80 en Chine, mais surtout depuis 2000. On a une augmentation de la classe moyenne mondiale, c'est-à-dire la classe moyenne supérieure qu'on a au Brésil, en Inde, en Chine et en Russie, et qui fait que toutes les matières premières ont augmenté. Et donc, depuis 2000, on a quelque chose de nouveau dans le revenu des Français, qui est ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Alors, les économistes parlent de dépenses pré-engagées, c'est la facture d'électricité, la facture d'eau, les assurances, on n'a pas le choix. En anthropologie, on parle de dépenses contraintes parce qu'il y a des contraintes sociales.
Alors, ça veut dire qu'on se sent obligé d'effectuer ces dépenses.
On est obligé soit parce qu'on aime ses enfants, soit parce que le groupe nous dit « si tu ne fais pas ça, tu es un nul ». C'est vraiment une contrainte sociale que n'intègrent pas les économistes, mais qui est réelle. Il y a 20 ans, j'avais fait une enquête, c'était comment les enfants manipulent les parents. Ça, c'est une forte contrainte, hein, surtout à Noël.
Alors bah justement, c'est ce que vous disiez, se loger, c'est une évidence, se chauffer, c'est une évidence, se déplacer aussi. Les cadeaux de Noël, ça fait partie justement de ces contraintes?
Oui, parce qu'il y a une quatrième dépense contrainte qu'on oublie alors qu'elle est absolument sous nos yeux, c'est la dépense numérique. Pour faire vite là encore, dans les années 60, tout ça, ça représentait 0,5%, ce qu'on appelle le budget communication, parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Aujourd'hui, c'est 8% en moyenne, mais chez les plus pauvres, on monte à 17%.
Alors, donc traduction, c'est le téléphone,
c'est le téléphone, la tablette, la télévision, l'ordinateur. Et donc ça, ça rentre dans les cadeaux de Noël. Et dans les cadeaux de Noël, donc le point intéressant ici, c'est de montrer que le cadeau de Noël, d'un point de vue anthropologique, est une dépense contrainte. Et ça, le point important à retenir. Et ce n'est pas une dépense pré-engagée, mais elle est contrainte. Elle est en partie pré-engagée, si vous regardez, parce que les gens les plus pauvres vont acheter 2 à 3 mois en avance pour acheter moins cher. Et face à ces dépenses contraintes, il y a en gros 3-4 pratiques. L'une, effectivement, c'est de payer moins cher. La deuxième, et c'est pour ça que j'ai amené ça...
Alors,
c'est
vous
faire
montrez
soi-même.
Votre écharpe rouge.
Une écharpe rouge tricotée, c'est faire soi-même. Et dans l'enquête qu'on avait faite en 2009, après la grande crise de 2008, on avait repéré ces 4 pratiques qui s'appliquent tout à fait à Noël. Alors pourquoi celle-là? Parce que c'est ma belle-mère qui l'a fait. Ma belle-mère a émigré en 60 en France. Elle aura une retraite de 600-700 euros de reversion. Hein. Donc c'est pas grand-chose. Mais ils n'ont jamais eu de voiture et ils ont tout mis dans l'école. Et ce qui me frappe, dans le mouvement des gilets jaunes, c'est que je ne vois rien sur l'école et je vois tout sur la consommation. Ce n'est pas une critique, c'est juste pour bien montrer que la consommation est centrale. Donc dans les pratiques liées au pouvoir d'achat, on va acheter moins, on va acheter moins cher, on va faire soi-même. Et acheter moins cher, c'est les cadeaux d'occasion.
C'est vrai qu'on a vu que le budget, par exemple, est en baisse cette année. On parle d'un budget de 571 euros, en baisse par rapport à l'an passé, mais avec la volonté d'acheter plus de cadeaux. Donc forcément, ça veut dire qu'il faut bien acheter moins cher.
Il faut acheter moins cher. Alors, c'est peut-être le nombre de cadeaux qui peut rester constant, mais en réalité, le prix du cadeau diminue. Et là encore, les économistes, que j'aime bien, parce que je bosse beaucoup avec eux, parce que c'est eux qui me donnent des quantifications, ils raisonnent toujours en moyenne. Moi, je ne raisonne pas en moyenne. Je fais 10 fois 10%. Effectivement, si vous êtes dans les 50% de Français de la classe moyenne ou moyenne supérieure, votre budget va augmenter ou rester
bien
à peu près stable. Mais dès que vous êtes en dessous dans les 10, 20, 30, 40% de Français qui ont revenu plus bas, le budget baisse aujourd'hui.
Et donc, vous le disiez, effectivement, il y a aussi un Français sur deux qui est prêt, par exemple, à offrir un objet reconditionné, en gros remis à neuf parce que ça coûte trop cher de l'acheter neuf.
Absolument. Et dans ces objets reconditionnés, il y a le téléphone ou la tablette. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez en classe et que vous n'avez pas d'ordinateur pour vos enfants, hein, ben vous ne pourrez pas suivre certains cours, il n'y a pas d'ordinateur partout. Aujourd'hui, quand vous regardez comment les gens communiquent, tout le monde communique par de l'information dématérialisée, ce qu'on appelle du numérique, peu importe le mot. Donc si vous n'avez pas les objets qui émettent, donc un téléphone ou une tablette, de la dématérialisation, vous êtes complètement désocialisé. il y a des enjeux de la consommation. C'est pour ça que c'est un mouvement très fort en termes identitaires. C'est d'être socialisé, d'être intégré à la société, revendiquer de consommer plus ou comme les autres, c'est être socialisé.
Du coup, Dominique Desjeux, ça tombe à pic, cette prime exceptionnelle que les entreprises vont pouvoir verser à leurs salariés. Alors, les entreprises qui le voudront bien, à hauteur, on va dire, de 1 000 euros où elles seront exonérées de toute charge de cotisation, ça a été adopté définitivement par le Parlement hier soir.
Alors, ça va tomber bien à la fois, alors pas pour tout le monde, si vous êtes une TPE, vous avez 1, 2, 3 ou 4 salariés, la prime ne sera peut-être pas aussi élevée que si vous avez plus de marge pour le faire. Ça va être bien aussi pour les banques. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la classe moyenne basse est endettée. Et pourquoi elle n'arrive pas à payer les cadeaux de Noël ou à payer les fins de mois ? C'est du fait de l'endettement qui fait que si le chauffage tombe en panne, si la voiture tombe en panne, si il y a une panne quelque part, tout d'un coup, il n'y arrive plus.
Elle va faire des arbitrages.
Exactement. Elle fait un crédit revolving et aujourd'hui, une partie des gens vont pouvoir rembourser leur crédit et peut-être faire d'autres crédits revolving grâce à cette prime.
Un dernier mot, quand même, Dominique Desjeux, ça reste un plaisir quand même d'offrir des cadeaux, rassurez-moi, pas uniquement une contrainte sociale.
Alors ça reste un plaisir, c'est pour ça que c'est une contrainte sociale.
Merci beaucoup Dominique Desjeux, professeur émérite à la Sorbonne. Vous venez de publier L'empreinte anthropologique du monde chez Peter Lang et je crois même que ça vient d'être traduit en anglais d'après
Absolument.
Ce que vous m'avez dit.
Absolument, et en chinois.
Merci beaucoup. Et jusqu'à 14h, vous le savez, nous prolongeons cette tranche d'information avec Tout Terrain. Dans Tout Terrain, on reviendra justement sur la mobilisation des Gilets jaunes avec une de leurs revendications, le référendum d'initiative citoyenne. Et puis on terminera avec une voix et quelle voix, celle de Jean-Louis Trintignant qui dit tout son amour de la poésie en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.
Et Fabienne, on vous retrouve juste après avec la suite de l'actualité sur Europe 1. Fabienne Lemoelle sur Europe 1.